ce miracle chaque soir, mais réaffirmé. Quand le soir j'ouvre la porte et que jeudi soir il pleut et il y a des embouteillages en Paris et les gens sont là, voilà. Ils ont fait l'effort, parce que c'est un effort. Aller au théâtre, c'est un effort. Beaucoup plus qu'au cinéma.
Mesdames et messieurs, où sont tout le monde?
Le grand atelier.
Viens venir faire un peu de théâtre avec moi.
Vincent Josse.
Mais venez!
Elle est unique, Ariane Nouchkine, dans sa manière de défendre une idée collective du théâtre.
Je crois que j'avais envie d'une vraie aventure humaine.
Depuis 1964, au Théâtre du Soleil, chaque membre a des droits et des devoirs. On gagne le même salaire, on partage une vie communautaire, même si le soir chacun rentre chez soi. Dans la journée, tour à tour, on fait le ménage ou la cuisine.
Il faut que les gens mettent leur nom pour nettoyer les toilettes du Gourbi.
Et lors de la création d'un spectacle, il faut proposer, improviser jusqu'à ce que la metteuse en scène retienne ce qui lui semble le mieux adapté, le plus juste. Parmi les devoirs de la troupe, il y a nous. Nous, spectateurs, devons être reçus, accueillis quand nous venons à la cartoucherie de Vincennes. Et c'est le cas. Ariane Nouchkine ouvre les portes. Elle nous salue, nous guide, tout en arrachant nos billets. Et puis à l'intérieur, des hommes et des femmes nous proposent des plats.
Il y a le lassi à la mangue.
Des boissons.
On a la limonade du désert aussi.
La cuisine s'adapte au thème du spectacle. En ce moment, l'Inde est au menu, puisque la pièce Une chambre en Inde, forte de 35 comédiens, est reprise jusqu'à la fin du mois. Bonjour, Ariane Nouchkine.
Bonjour Vincent.
On ne se lasse pas de cette question quand on consacre sa vie au théâtre et qu'on vit au Théâtre du Soleil. Comment raconter le monde ?
Non, évidemment qu'on ne s'en lasse pas. Et puis de toute façon, si on s'en lassait, le monde nous avertirait bien vite qu'il n'est plus déjà le même qu'hier. Le mouvement du monde, son mouvement parfois harmonieux, son mouvement le plus souvent chaotique et parfois indéchiffrable, je dirais, évite toute lassitude. Ça peut être parfois de la crainte, du doute, un sentiment de débordement ou de... Mais de lassitude, non. On ne peut pas se lasser de l'humanité, je pense.
À votre place, la semaine dernière, il y avait Costa Gavras, à qui on dit toujours « tu fais du cinéma politique ». Costa, il disait « mais non, je ne fais pas simplement du cinéma politique, je fais du spectacle avec des aventures humaines ». Vous pourriez reprendre cette façon de s'exprimer ?
Au fond, je crois que quand on fait du théâtre ou un film, je pense qu'on fait le film ou la pièce qu'on a envie de voir. C'est une aventure de connaissance. C'est-à-dire, quand on fait un spectacle, on est totalement ignorant de ce qu'on va raconter, au fond, au début. Il faut devenir un peu historien, sociologue, interprète, enfin, de la période que nous voulons incarner. Et au fond, si on veut l'incarner sur une scène, ce n'est pas pour l'accepter, mais c'est pour essayer de la comprendre. Et donc, d'en accepter les progrès et de pouvoir lutter ou éclairer les aspects parfois démoniaques ou d'ignorance, enfin, qui sont si graves dans l'évolution des sociétés.
On va passer 2 heures avec vous, Ariane Nouchkine, 2 heures avec vos invités aussi, puis on ira s'immerger au Théâtre du Soleil, puisque vous et votre troupe m'avez accepté samedi dernier de 11h du matin à la représentation de 16h, du footing de certains comédiens à l'ouverture au public, en passant par les réunions entre vous et eux. Bienvenue à tous dans le grand atelier d'Ariane Nouchkine. Je peux m'asseoir ?
Qui d'abord ?
La radio de service public.
La radio de service public, oui. S'il vous plaît, peut-être juste, parce que je sais que peut-être que vous ne savez pas tous pourquoi Vincent est là. Bah, elle m'a invité à elle, son émission.
Le Grand Atelier.
Le Grand Atelier. Voilà, donc il vient comme ça cueillir des sons. Et moi, j'ai invité quand même que vous le sachiez, parce que je dois avouer que le discours d'Emmanuel Macron à messieurs les évêques m'a mise extrêmement en colère.
Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer.
Donc j'ai invité 3 personnes. Un monsieur que j'admire beaucoup qui s'appelle Haleb Bencher, qui est un théologien et qui parle de la laïcité comme peu de gens. J'ai invité aussi Shala Shafir, qui est une personne que j'aime beaucoup. Et là, j'ai invité l'auteur dont je vous ai parlé de ce livre, Les Noirs n'existent pas, parce que je trouve que cette femme est courageuse et sensé, voilà, et dans le moment complètement insensé qu'on vit, et avec la laïcité, et avec beaucoup de choses, j'avais envie qu'on, au moins on cherche un peu de sens, et un peu de liberté de penser.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering.
The Sound of Silence, Simon and Garfunkel. J'ai choisi ce titre-là, Ryan Nouchkine, parce qu'il date de 1964 et que le Théâtre du Soleil est né en
1964.
Quelques années plus tôt, votre père, le producteur de cinéma Alexandre Nouchkine, vous envoie étudier en Angleterre, à Oxford, et en même temps que vous apprenez l'anglais, vous entrez dans des troupes universitaires où vous faites tous les petits métiers, accessoiriste, assistante au costume, comédienne. On peut dire que c'est là que vous avez la révélation du théâtre?
Oui, absolument. Je pense que le mot révélation ou coup de foudre irait très bien. Je ne me suis pas rendu compte à l'époque quelle chance j'avais de savoir à 17 ans, 18, que voilà, ça allait être le théâtre, ma vie. C'était très tôt et c'est venu comme une certitude. Voilà.
Je voudrais qu'on vous écoute en 1961, si vous le voulez bien, Ryan Nouchkine, quand vous venez de créer l'Association théâtrale des étudiants de Paris et que vous montez Gengis Khan, un texte d'Henri Beauchaud. 1961, Ryan Nouchkine.
C'est dans les arènes de Lutèce, non loin de la place Maubert, que nous avons filmé les dernières répétitions de Gengis Khan par l'Association théâtrale des étudiants de Paris.
Je ne songe plus à lutter, mais à rétablir la paix. Que veux-tu pour te retirer? Veux-tu de l'or? Des étoffes de soie, des femmes.
Ariane Nouchkine, pourquoi avez-vous créé l'Association théâtrale des étudiants de Paris?
Écoutez, parce que moi, je voulais faire du théâtre mon métier et je voulais prendre contact avec le vrai travail du théâtre le plus vite possible.
Vos études ne souffrent pas trop de cette passion du théâtre?
Beaucoup, énormément. Enfin, je considère ça comme mes études plutôt. Je considère
vous voulez faire du théâtre plus tard?
Oui.
En tant que quoi?
En tant que metteur en scène, c'est vrai.
Et comment l'Association théâtrale des étudiants de Paris a-t-elle pris corps, en quelque sorte?
C'est assez difficilement, parce que nous étions deux au départ, et vous, alors il fallait tout faire à la fois, poser les affiches, faire les permanences, il fallait qu'on soit connus. Alors on a tenté
un coup d'éclat.
Pour le tout, oui, nous avons écrit à Jean-Paul Sartre pour lui demander de faire une conférence, sans espoir aucun, puis il nous a dit oui. Alors ça nous a pas mal étonnés. Ça nous a apporté un peu d'argent pour pouvoir fonder vraiment quelque chose.
Et surtout, l'association a été lancée.
Et l'association a été lancée, oui.
Il y a déjà cette idée de travailler ensemble et de tout faire ensemble. Comment avez-vous su ça si tôt?
Ça, comment dire, ce sont des choses qui nous viennent. Hein. Je ne peux pas très bien savoir pourquoi. Je crois que j'avais envie d'une vraie aventure humaine et que je savais, confusément, qu'une aventure solitaire... à moins d'être un navigateur sur un petit bateau. Enfin, voilà. Moi, j'avais envie d'un bateau, mais avec un équipage. J'avais envie d'être heureuse. Hein. Souvent, on me dit, pourquoi vous avez fondé le Théâtre du Soleil? Et je me dis, mais nous avons fondé le Théâtre du Soleil pour être heureux. Voilà. Parce qu'il y avait une vision, il y a toujours, je crois, une vision du bonheur. Et le bonheur, c'est quand même avec l'autre. Et ça se construit à minimum à deux et au théâtre à beaucoup plus.
Dans ces jeunes années, les années 60 du Théâtre du Soleil, dans ce bateau qui commence à naviguer à plusieurs, encore une fois, vous n'êtes pas une navigatrice en solitaire, Ariane Mnouchkine, il y a un comédien qui a été une figure au théâtre et au cinéma ensuite, qui est Philippe Léotard, et qui a toujours parlé de cette expérience de comédien au Théâtre du Soleil.
En 61 je rencontre Ariane Mnouchkine. Elle m'a fait comprendre que j'avais le besoin de plaire. Un besoin effréné, insensé, que faute de quoi je mourrais, quoi. C'est-à-dire que séduire, qu'on m'aime. L'enseignement, j'y pensais pas trop. Le 2 janvier 1968, à Carcassonne, en tournée, je remplaçais un type, à condition que ce soit pour la durée des vacances scolaires, parce que mes classes d'HEC m'attendaient. Et ils avaient un concours au mois de mai. Et le 2 janvier, le type, staphylocoque doré, reste à l'hôpital. Et c'était une nuit historique où j'étais assis sur mon coin de lit à l'hôtel et Ariane faisait 100 pas et me disait, bon alors, tu préfères quoi? Te retrouver avec un bide comme ça, chauve, des lunettes, professeur de français à Limoges, ou tu restes avec nous? Et j'ai eu ma nuit d'angoisse jusqu'au matin que la poste ouvre et j'ai envoyé un télégramme au collège Saint-Barbe en disant, bon, je démissionne de l'enseignement. J'ai connu le communisme au sens propre du terme, c'est-à-dire que j'ai vécu au Saline Royale d'Arquesnan avec le Théâtre du Soleil et ses amis, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes. Et on a vécu 3 mois d'été, l'été 68, sous ces arbres, en train de déjeuner un midi, tous ensemble, il y avait 60 personnes, peut-être, les enfants qui jouaient, et tout, c'était merveilleux. Et avec quelqu'un met la radio et on apprend l'entrée des troupes du Pacte de Varsovie dans Prague, et le printemps de Prague massacré, et le communisme révélant son vrai visage, quoi, enfin le stalinisme plus exactement. Et Ariane et moi, on est tombés dans les bras l'un de l'autre, on a pleuré comme des gonzesses, quoi. J'en pleure encore.
Voilà, Philippe Léotard, bouleversant et reconnaissant d'avoir participé à cette aventure collective, Ariane Mnouchkine.
Oui, mais c'est bon. Je voulais juste rectifier, c'est-à-dire que c'est possible que je lui ai dit ça, tu vas devenir chauve avec un gros ventre, mais pour le terrifier et qu'il reste avec nous. Mais bon, je voudrais dire à quel point je respecte les professeurs de Limoges. Ça, probablement, si je lui ai dit ça, je vais pas le nier parce que il le dit, donc. Mais je ne dirai une chose pareille. Maintenant que je sais ce que je sais, que c'est qu'être professeur à Limoges. Vous savez, l'autre jour, je disais avec des gens, on parlait de ce concept de premier de cordée, hein, qui revient si souvent maintenant dans le vocabulaire politique. Et je dis, mais d'accord, alors moi j'accepte ce concept, mais alors disons d'abord qui sont les premiers de cordée? Qui sont-ils vraiment, ces premiers de cordée? Et je citais les profs comme premiers de cordée, voilà. Donc j'espère que s'il y a un prof de Limoges avec un petit bedon et chauve qui a entendu ça, je veux qu'il sache que maintenant je sais que c'est un premier de cordée, comme les infirmières. Moi, je pense que ce sont eux, les premiers de cordée.
Eh bien, on va parler avec vous dans votre grand atelier, Ariane Mnouchkine, des premiers de cordée, de la place de la culture dans l'éducation. On va parler de laïcité, on le disait tout à l'heure, avec vos invités Chala Shafik et Raleb Bencher. Juste après avoir écouté un petit peu de pop chic et lascive, le groupe français L'Impératrice.
Le Grand Atelier sur France Inter.
L'impératrice sur France Inter, ça vous plaît ça, Ariane Moucheton?
Oui, je trouve que c'est bien ça.
L'impératrice, c'est un peu vous.
Oh, arrêtez ça.
Si,
dit Shala Shafir, sociologue iranienne. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Et puis l'intellectuel franco-algérien Raleb Bencher est avec nous aussi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un confrère, vous travaillez aussi sur France Culture.
Oui, j'ai ce plaisir d'être aussi sur les ondes de cette belle maison.
Question d'islam, le dimanche matin. Oui. Aux environs de 7h?
Vers 7h06 exactement.
Ariane Mouchkine, vous aviez envie de parler de laïcité avec vos invités?
Je pense qu'en ce moment, on entend des choses que je pense très graves sur ce que c'est que la laïcité. Et j'ai besoin d'entendre sur ce sujet un discours de connaisseur et d'intégrité. Pas d'intégrisme, mais d'intégrité, parce que nous trompons en particulier notre jeunesse en lui racontant n'importe quoi. Et je pense que les personnes que j'ai invitées là n'ont pas suffisamment de tribunes. Hein. Les tribunes, les médias, donnent la parole en particulier soit à la mode, soit aux imprécateurs, soit à ceux qui font peur, et les autres soit se taisent, soit n'ont pas la tribune, ou parler calmement et faire savoir. Et Shala est une intellectuelle, un écrivain iranien, c'est une écrivaine iranienne, dirait-on maintenant, qui a l'expérience de l'arrivée d'une théocratie, et qui a l'expérience des ambiguïtés et de la façon dont les intellectuels iraniens, la gauche iranienne, s'est laissée piéger par Khomeini.
Shala Shafik, vous avez fui l'Iran en 1982.
Oui, j'étais étudiante à l'époque, jeune de gauche, d'extrême gauche. Et toute la gauche iranienne était absorbée, fascinée par cette dimension populaire, puisque l'islam passait comme la religion du peuple, comme aujourd'hui ça passe aussi auprès de intellectuels, certains partis de l'élite, comme la religion du peuple, alors que c'est pas ça. Comment ça se fait que moi qui faisais partie d'une... Ça veut dire qu'il était grandi au sein d'une famille laïque qui avait une vision éclairée des choses. Comment j'ai pas vu le danger? Et comment la gauche iranienne n'a pas vu le danger?
ça m'a tellement hanté cette expérience que j'ai commencé à réfléchir et j'ai trouvé que c'était une grande erreur qui était due à une confusion terrible qui vient du fait qu'on dépolitise la question religieuse. En fait, ce qui est important dans la, si on revient à la laïcité, c'est de séparer le champ religieux du champ politique. Donc, de rendre quelque part à ce que nous vivons, au vivre ensemble, son sens. Je pense qu'en fait, dans ce pouvoir, cette idéologisation de religieux qui est une sorte de néoconservatisme moderne, qui existe aussi, l'islamisme en est le christianisme, et chez les intégristes catholiques et chez les protestants évangélistes qui font ravage aussi aujourd'hui à Brésil, ailleurs, etc. On voit le même mécanisme, je les appelle les mouvements néoconservateurs actuels, qui proposent un ordre moral comme réponse à tout le désarroi du monde. Mais il n'y a aucune réponse. C'est une utopie très dangereuse et qui a donné des résultats vraiment effrayants en Iran, mais aussi ailleurs, ça donne la même chose. Mais par contre, il y a une résistance qui est bien sûr étouffée, mais qu'on ne le voit pas par rapport à l'Iran. Mais aujourd'hui, par exemple, vous voyez Jafar Panahi qui est à Cannes cette année pour son film. Il est interdit de filmer, mais il filme quand même. Ah oui. Et il est là. Panahi est connu, mais il y a plein de Panahi qui sont à l'intérieur. Et moi, je crois qu'en France aussi, puisque maintenant, je suis aussi par mon exil, aussi bien française qu'iranienne, il y a une résistance face à cela. Voilà Mnouchkine, mais voilà aussi plein d'autres personnes qui essayent de dire autre chose.
Shahla Shafik, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, on sait bien ce que c'est que le principe de la laïcité ?
Maintenant, en France même, on vit quand même un piège qui consiste dans le fait que la religion devient un critère global, un critère identitaire qui prend la place de tout. La classe sociale, l'origine, le culturel, etc. Donc on mélange tout et par ça, les gens sont catégorisés selon la religion et c'est au détriment de ces gens et c'est au détriment de tout le monde.
Ariane Mnouchkine ?
Elle a parlé de catégorisation, elle a parlé de, je dirais, d'assignation à une certaine identité, qui est le titre du livre de Tania de Montaigne qui va nous rejoindre. Mmh. Et c'est ça qui, en ce moment, m'inquiète, c'est faible. Si j'avais une propension au désespoir, je dirais me désespère, mais je n'ai pas de propension au désespoir, parce que je sais qu'il y aura des gens pour lutter contre ça, spirituellement, et dans tous les, j'allais dire les camps, comme s'il fallait des camps. Mmh. Mais justement, dans le camp des croyants, comme dans le camp des agnostiques ou des athées, voilà, il y a une réflexion à avoir. Et la laïcité est un outil, c'est le premier des outils pour que nous ne nous retrouvions pas face à face, mais côte à côte. Et donc, je pense que c'est très important qu'on éclaire ces propos, comme vous allez le faire,
monsieur. On va se tourner vers Ghaleb Bencher, théologien, l'un de nos grands spécialistes de l'islam en France. Alors, est-ce qu'elle est mal en point, notre laïcité ?
Qu'est-ce qui est mal en point ? C'est peut-être notre nation, si je ramène les choses à l'échelle de la nation française. Notre nation qui est résiliente, qui est malade, meurtrie, convalescente, ayant subi un terrible traumatisme suite aux attentats abjects, il lui reste un point qui me semble être de la plus haute importance, c'est sa cohésion, pour que la digue ne cède pas. Or, la laïcité, c'est un principe juridique, sans épaisseur idéologique, sans densité doctrinale, sans contenu substantiel autre que de garantir la liberté de croire, de ne pas croire et de pouvoir changer de croyance. Nous nous trouvons dans une société plurielle, composite, diversifiée, etc. Et il nous reste ce liant, cette voûte commune qui est la laïcité, qui permet la cohabitation, comme on dit, des uns et des autres selon leurs options métaphysiques, leurs orientations, leur vision du monde. Et puis, quand il s'agit du bien commun, eh bien, on le met ensemble.
Ce discours est entendu par tous ?
Alors, il n'est pas entendu au sens espagnol. Il l'est peut-être...
Entender, qui veut dire compris.
Ça veut dire compris, c'est dans cette optique-là. Mais ce n'est pas une raison d'abdiquer. Il faut trouver les moyens, la pédagogie et l'art de répéter les choses. Simplement, le fanatique, c'est un peu comme le clou. Plus on tape dessus, plus ça rentre, j'allais dire, des idées. Donc, il faut trouver d'autres méthodes. L'art, par exemple. La beauté, je crois comme Dostoïevski qu'il y a une vertu salvifique, salvatrice à la beauté. La beauté sauvera le monde, il nous le disait dans L'Idiot. Ça me paraît être vraiment de la plus haute importance de le dire, de le souligner. Le discours incantatoire ne fait jamais avancer les choses. Donc quand nous avons une opportunité d'aborder ces questions avec distanciation, froideur d'esprit, j'ose dire le mot, intelligence, eh bien ça nous fera avancer tous ensemble vers un modèle dont j'ai encore une fois la faiblesse de croire qu'il peut être transmissible ailleurs.
Je sens que ça vous enchante, ça, d'entendre ça.
Ah, moi, ça me fait très très plaisir et je voulais dire à Halep, quand il a parlé, en disant que la laïcité, c'était notre voûte commune. Et je me dis que c'est une... Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Et je le remercie de le dire avec des mots que certainement je n'aurais pas trouvé moi-même. Et que cette voûte, il y a plusieurs choses qui peuvent la fracasser. Hein. C'est la manipulation, c'est l'ignorance et c'est la bêtise politique. Même l'électoralisme, le clientélisme de certaines déclarations dans le discours politique de gens qui pourtant ne sont pas mauvais en eux, en soi, mais ils jouent avec cette voûte commune, ils la fissurent. Et pour moi, la solidité, l'intégrité, l'inexpugnabilité de cette voûte commune, je considère que c'est la seule protection pour nous-mêmes et encore plus pour des populations qui sont tous les jours, parce que par proximité, tous les jours surveillés, provoqués, manipulés par cette bande de tartuffes. Voilà. Et si nous commençons, nous, à être orgon, c'est-à-dire un complice mystérieux d'ailleurs, hein, je trouve que le personnage de Molière est extraordinaire parce qu'au fond, on se demande pendant toute la pièce pourquoi Orgon est si aveugle, si complice de celui qui va saccager sa maison et la prendre. Donc, il y a plein d'interprétations de metteurs en scène diverses et variées.
Vous avez monté, vous, Arnaud Mouchkine, le Tartuffe.
Oui, absolument. Mais donc, ne soyons pas Orgon, parce que nous abandonnons, en étant Orgon, nous abandonnons des populations entières à l'oppression.
On va faire une petite pause musicale et vous retrouver, Chala Shafik, Ghaleb Bencher et Ariane Nouchkine. Je voudrais qu'on écoute un peu de jazz parce que c'est l'année Debussy et un trio a composé un très beau disque inspiré de Claude Debussy qui s'intitule Pour Claude, Travel with Claude Debussy. Le pianiste Enrico Pieranunzi, le contrebassiste Diego Imbert et le batteur André Ceccarelli proposent par exemple ce passe-pied nouveau.
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن.
En vérité, je vous le dis, et suis heureux de ce que je dis, adepte de l'amour, des deux mondes me suis-je affranchi. Pardonnez, Seigneur, aux hommes leur friction, n'ayant pas vu la vérité, ils s'abreuvent de fiction. Ne juge pas les libertins inspirés, ô toi qui vantes tant ta pureté, que je sois pécheur ou vertueux, que t'importe. L'indulgence est la marque des âmes fortes. Chacun finira par récolter ce qu'il sème, tu devrais t'occuper de toi-même. Chaque être aspire à l'ami, qu'il soit ivrogne ou éveillé. Partout est la demeure de l'ami, aussi bien la synagogue que la mosquée.
Qu'est-ce qui vient d'être dit ?
Ben, c'est ce qui se faisait à la fois pour la production, presque au sens étymologique du terme, poésie, création, le grand maître Hafez. Un homme qui a vécu au XIVe siècle, 1317 ou 19, mort en 1389, enseignait ainsi, quand on voit la régression tragique.
Oui, parce qu'on est loin de ça aujourd'hui.
Ah ben bien entendu, nous sommes loin de ça. Raison de plus pour croire qu'il y a à l'intérieur du peuple iranien, qui est un peuple d'une grande civilisation, pour dire que ce qui est inconsistant finira par disparaître, en ayant fait entre-temps des dégâts, ça c'est vrai, mais il faut avoir cette flamme intérieure pour revenir à la civilisation humaine. Et c'est ça l'humanisme. À propos de la laïcité, encore une fois, j'aime, au-delà de la formule, cette présentation qui consiste à dire que c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. C'est aussi simple que ça, ça a l'air d'être simple dans sa formulation, difficile peut-être à réaliser, mais ce n'est pas une raison non plus d'accepter, Ariane a parlé de cette oppression religieuse, et dans certains cas il y a une aliénation de la part de certains qui ont été culpabilisés, donc il s'agit de déculpabiliser des consciences. En finir avec cette raison religieuse dévote et cette aliénation. Pardon, j'ai beaucoup de respect pour les consciences humaines, mais j'ai envie d'ajouter, il y a des aliénations crétinisantes. Et on ne peut pas l'accepter par amour de l'homme, de sa dignité d'être humain, et que des systèmes religieux qui broient cette personne humaine, eh bien, nous ne l'accepterons pas.
Un dernier mot sur la laïcité avec vos invités, Ariane Mnouchkine.
Oui, moi, j'aimerais juste dire, je conseille à ceux qui voudraient vraiment bien comprendre, pas seulement ce que c'est que la laïcité, mais ce que c'est que cette fameuse loi qui est comme ça insidieusement attaquée verbalement, ou parfois plus que verbalement, qui est la loi de 1905, qui est donc la loi de séparation des églises et de l'État. Il y a un livre d'un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Scott, qui est un historien, et il a écrit un livre qui s'appelle L'État chez lui, l'Église chez elle. C'est une formule de Victor Hugo. Comprendre la loi de 1905. Eh bien, une fois qu'on a lu et compris ce livre, on ne pourra plus dire qu'on ne sait pas la façon dont les papes du 19e et du début du 20e, les évêques, l'Église catholique, la façon dont elle s'est battue, mais comme une horde de hyènes, contre cette loi, à côté, les contrariétés que nous avons avec certaines de nos autorités religieuses autres, pour l'instant, ça va. Ça a été une guerre, ça a été une vraie guerre que l'obtention de cette loi, grâce à Aristide Briand, à Jaurès et d'autres.
Chala Chafik, merci d'être venu parler de vous, de votre expérience et puis de ce pays, l'Iran. On peut lire de vous l'islam, politique, sexe et genre, paru au PUF, et puis aussi un roman, Demandez au miroir, paru à l'âge d'homme. J'ai cité vos livres, Raleb Bencher, et je rappelle que vous êtes tous les dimanches matins aux environs de 7h sur France Culture. Portez-vous bien. Ariane Mnouchkine, en ce moment, c'est une reprise importante qui se produit au Théâtre du Soleil, à la Cartoucherie de Vincennes. Vous reprenez une chambre en Inde. Vous étiez parti avec toute la troupe en Inde au lendemain, si je puis dire, des attentats de novembre 2015. Vous avez observé ce qui se passe là-bas. Vous avez suivi l'art. Comment parler de cet art que vous avez observé et qui est restitué à certains moments du spectacle ?
C'est-à-dire, nous étions, avant novembre 2015, nous devions aller en Inde. On avait prévu d'y aller parce que j'étais tombée un peu amoureuse de cette forme de théâtre qui s'appelle le Telukutu, qui est une forme de théâtre épique et qui est pratiquée par, au fond, par des villageois. Et le plus souvent de très basse caste. Après sont arrivés les attentats, ça a failli faire que nous ne partions pas. Dieu merci, nous sommes quand même partis. Et pendant 15 jours, 3 semaines, ça a été certainement le début le plus difficile qu'on ait jamais eu, parce qu'on était tellement déstabilisés, tellement troublés, que jusqu'au moment où nous avons finalement admis et compris qu'au fond, le spectacle, eh ben, il allait être là-dessus, sur notre trouble, sur notre inquiétude, sur notre, une sorte d'impuissance. On vit ça, une rencontre, un accident dans la rue, un attentat. On fait comment pour que ça devienne de l'art, que ça ne soit pas à aucun moment de la violence brute, mais que ça soit pour le public un outil de pensée, d'émotion, de reconnaissance. Donc au fond, c'est la question que nous nous posons tous les matins. C'est ça le théâtre, c'est concret le théâtre, c'est l'art du présent, disait Vitesse. Et c'est vrai, le théâtre c'est ici, maintenant, vraiment, mais pas réalistiquement, vraiment, mais transformé.
Eh bien, on va les retrouver, vos camarades, vos amis du soleil, puisque vous m'avez autorisé à venir vivre un samedi avec vous et votre troupe. Joli moment d'ailleurs, de 11h du matin à 16h, l'heure de la représentation. C'était samedi dernier, j'ai pu aller vraiment partout, des cuisines aux loges des comédiens et des musiciens. J'avais un micro, bien sûr, pour y emmener les auditeurs du Grand Atelier. 11h du matin, le Théâtre du Soleil, on s'approche des cuisines. Il y a déjà beaucoup de monde qui travaille. Ils ont tous un petit chapeau blanc.
Et les champignons, il va se couper tout ça. Ah, tu m'aides, Liliana, on veut voir.
Je vous reconnais, vous. En 2006, quand j'ai fait l'atelier d'Ariane Mnouchkine, vous étiez là, vous n'aviez pas de barbe.
Non, j'avais une moustache.
Et vous étiez comédien, Maxence Baudouin, dans Les Naufragés du Fol Espoir. Et là, vous êtes en train de couper des champignons avec des gants.
Voilà.
Un petit bonnet.
J'aide à faire la cuisine et du coup à accueillir les spectateurs aussi.
Là, on rentre où, là? Sous la nef?
Là, on rentre dans la nef d'accueil, qui a été, une fois de plus, repeinte en rapport avec le spectacle.
Donc c'est là que les gens peuvent manger.
C'est là que les gens peuvent manger.
Et ensuite rentrer dans la salle qui est en face de nous là-bas.
C'est ça. Et nous, on leur donne à manger et aussi ils peuvent lire des citations de Gandhi, de...
Oui, mais elles ne sont pas traduites.
Bah, bien sûr, si.
Ah si.
Le monde est fatigué de ceux qui le haïssent, Gandhi. Et en même temps, on leur sert des soupes birmanes. C'est pas mal, non?
Qu'est-ce qu'il y a d'autre au menu?
Soupe végétarienne.
De ras malai. C'est un très très bon dessert indien.
Vous dites ça, c'est écrit en dessous. Très très bon dessert.
Oui, mais c'est Ariane Mnouchkine qui a décidé qu'on disait très très bon dessert indien.
Elle décide même, Ariane, de ce qu'on écrit sur les menus.
Bien sûr. Bah oui, elle est partout.
Impressionnant.
On rigole, mais elles disent toujours une phrase qui est « Dieu est dans les détails ». Donc, et ça s'avère vrai.
Alors, il y a d'autres personnes là qui sont autour de nous, Maxence.
Oui, et maintenant je voudrais présenter Diki, qui nous vient du Tibet et qui a beaucoup de plats à nous apprendre. Ta spécialité ici, c'est le lassi que tu devais me montrer.
C'est panadas.
Un panadas.
Oui.
Oui. Et tu habites dans une roulotte.
Oui.
Une des roulottes de l'entrée.
Oui.
Diki est arrivé comme réfugié.
Réfugié tibétain.
Ça fait partie de la politique d'accueil du Théâtre du Soleil.
Oui, les réfugiés politiques, c'est pour eux qu'on a installé les roulottes. Et ils ont priorité sur tout le monde ici, pour la roulotte.
Merci,
merci.
Travaillez bien. Maurice Durosier, vous êtes en jogger là?
Oui, je vais courir. C'est excellent, on a beaucoup de chance d'être protégé par cette nature. On est isolé du monde. Et justement, nous qui sommes une troupe qui parlons justement du monde, du chaos du monde, des dérives du monde, le fait d'être comme ça environné par cette nature, ça nous permet d'être vraiment un peu comme le village d'Astérix. Le Théâtre du Soleil, c'est une vraie troupe. Nous sommes autant sur le plateau, 35, que dans l'ombre qui travaille pour le spectacle.
Tout commence, ou en tout cas il y a un moment très important, au début d'une création au soleil, par de l'improvisation et un travail collectif de scène où chacun cherche quelque chose à partir d'une situation donnée par Ariane.
Ariane donne le thème. Et les propositions viennent des acteurs. On élabore des situations. Nous, on appelle ça les visions. le spectacle se construit, s'élabore à partir de toutes ces propositions. Il y en a parfois qui sont pratiquement telles qu'on les a présentées, et puis il y en a qui sont travaillées parce que Ariane veut les améliorer, parce qu'elles ne sont pas tout à fait abouties, ce qui est normal. Je sais qu'il y a certaines créations où on atteignait presque 300 propositions pour finalement en garder 30-40.
Je vous laisse courir peut-être.
Merci.
Duccio Bellugi, Mannuccini.
Comédien.
Comédien dans la troupe du Théâtre du Soleil depuis 31 ans.
Pourriez-vous décrire un peu ce qu'on voit là?
Ben ici, il y a ce qu'on appelle les loges rapides, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas le temps de retourner dans les loges qui sont sous les gradins, ils peuvent se maquiller ici. Et il y a tous les changements rapides aussi pour les danses du Terokutu.
Oui, avec donc, des sortes de casques.
Il y a des coiffes avec des miroirs qui sont vraiment pris de la tradition du Terokutu, du Tamil Nadu.
À l'heure où on se parle, il est midi moins 5, vous êtes là depuis un petit moment, le spectacle n'est qu'à 16h. Pourquoi arriver si tôt?
Toujours on arrive 4 heures avant. Moi j'ai quand même beaucoup de préparation et j'aime bien prendre mon temps. Comme ça nous donne aussi le temps de faire l'échauffement vocal, l'échauffement physique, manger et après se maquiller pour le début du spectacle. Quand on arrive, souvent il y a une réunion avec Ariane, tous ensemble. Il y a une liste, là, on se parlait tout à l'heure avec Armand, il y a une liste pour nettoyer les toilettes, elle n'est pas remplie, donc il faut que les gens mettent leur nom pour nettoyer les toilettes du Gorbi. Voilà, ça il faut le faire aussi. Ça fait partie de cette façon d'être ensemble. C'est plus facile, bien évidemment, d'arriver dans un théâtre où tout est prêt, on ne doit rien faire, mais bon, c'est une autre style.
Je vous laisse vous préparer et puis je vous retrouve tout à l'heure.
Merci, oui.
Alors là, on est sur le plateau, face aux spectateurs, et tout est en train de se mettre en place. On pose les objets, les verres, les bouteilles, les crayons. On passe l'aspirateur. Je vais vous demander qui vous êtes.
Je suis Hélène 5.
Vous tenez le rôle principal d'une chambre en un.
Oui, on peut dire ça. Pardon, hein, je fais du bruit avec mon sac plastique. Je vais poser ça tout de suite.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac?
Parce que il y a le caca de Cornelia, de la première scène. C'est du liège.
Oui. Oui, parce qu'elle a des petits soucis.
Oui, elle est en panique très vite. Et la panique, parfois, peut aussi être exprimée par une diarrhée, une colique.
Oui, deux, trois moments dans le spectacle, on vous voit prise de ses soucis.
Voilà, exactement.
Elle cherche à monter une pièce dans une situation pas tout à fait
simple. Oui, en plus, elle sait qu'elle en est incapable. Elle est incapable de monter un spectacle sur les chaos du monde.
Elle dit « je ne suis pas metteuse en scène ».
Je ne suis pas metteuse en scène, je rêve, c'est un cauchemar, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Donc oui, j'ai l'impression un peu, à des moments, d'incarner la voix d'Ariane, le corps d'Ariane.
Ses angoisses.
Ses angoisses, bien sûr. C'est vrai qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Mais c'est un vrai régal, c'est un bonheur, c'est le plus beau rôle de ma vie.
Il y a des comédiens qui s'échauffent.
Voilà. C'est le moment de la préparation physique.
Il y a du trapèze là-bas.
Oui.
Il y a pas mal d'abdos, d'étirements.
Et puis, il y a du yoga. Nirou, souvent, s'échauffe en faisant du yoga. On va manger. Et puis après, il y aura l'échauffement vocal pendant l'entrée du public.
Oui, parce que vous chantez tous.
Oui.
Allez, on va manger maintenant. Bisous.
Le grand atelier sur France Inter.
Yeah.
Kiran Ahluwalia Tere Darsan. On repart tout de suite à la cartoucherie de Vincennes au Théâtre du Soleil en pleine activité. C'était, je vous le disais, samedi, il y a une semaine. Ce jour-là, le spectacle a lieu à 16h, mais le théâtre ouvre à 14h30. Et là, précisément, il est environ 14h. Le déjeuner collectif de la troupe vient de se terminer. Bonjour, vous êtes Dominique Jambert.
Oui, exactement.
Je vous connais d'abord parce que je vous vois dans les spectacles d'Ariane Nouchkine depuis un petit moment, et puis aussi parce que la dernière fois que je suis venu pour l'atelier d'Ariane Nouchkine, vous étiez là, et vous êtes donc encore là, toujours là, 6 ans après.
Toujours.
Pourquoi ?
Pourquoi je suis encore là ? Je pense que j'ai encore des aventures à vivre au Théâtre du Soleil.
Qu'est-ce qu'on mène comme aventure, au pluriel, au Théâtre du Soleil ?
Une aventure de travail collectif, ça c'est sûr, d'apprendre à travailler ensemble. Ce qui n'est pas toujours facile. Une aventure humaine, évidemment, puisqu'on est dans un groupe et qu'on travaille beaucoup.
Dominique, dans 2 heures,
oui.
Le spectacle.
Oui.
Donc là, on vient de manger.
Mm.
Tous ensemble.
Oui.
Et vous vous approchez d'où, là, des loges ?
En fait, j'allais voir si je pouvais aller voir le kinésithérapeute, s'il y avait une petite place.
Vous pouvez le décrire, cet espace ?
En fait, on est sous le gradin, évidemment.
Ah oui, on a les spectateurs seront au-dessus de nous, là.
Voilà, exactement. Nous, on sera sous leurs pieds.
Et les spectateurs qui viendront pourront vous voir, vous maquiller.
Il y a des rideaux.
Tradition du soleil.
Oui, exactement. Dans les rideaux, il y a des petites fenêtres qui permettent quand même aux gens de regarder. Et ça, c'est une chose, je me rappellerai toujours, la première fois que je suis rentrée au Théâtre du Soleil, c'était pour Essoudain des Nuits d'éveil, donc c'était il y a un petit moment déjà, un peu plus de 20 ans. C'était vraiment une question que je me posais, ça, c'est comment je vais faire quand il y aura les spectateurs qui vont être là. Ça va être vraiment étrange, cette sensation. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que c'est comme si on faisait le chemin ensemble pour aller jusqu'au spectacle.
Les pinceaux, les poudres,
ouais.
La brosse, oui, un petit peu d'alcool. Oui.
Mais ça, c'est pour les moments où il faut remonter.
Il y en a des moments durs ?
Oui, bah, toujours la fatigue. C'est souvent la fatigue qui fait ça.
Spectacle de 3h30, hein ?
Oui.
14h10, dans 20 minutes, les portes du Théâtre du Soleil ouvrent et là je suis à nouveau devant deux comédiennes ou pas ?
Non, je ne suis pas comédienne, je fais travailler les comédiens.
Et là vous êtes avec Ève.
Oui, assez près.
Qu'est-ce que vous attendez là ?
Là, on attend l'heure du meeting, qui est le moment où... quelques minutes avant l'ouverture des portes, où nous nous réunissons avec tous les comédiens ensemble, avec soit Ariane, soit Hélène Cixous les dimanches. Et c'est un moment où nous nous préparons ensemble à accueillir le public. Ça lance ce moment que l'on va partager, où on va être tous ensemble pour le spectacle.
Il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est assez recueilli comme moment. Et tous les acteurs, ils sont nombreux, une trentaine, les acteurs viennent s'asseoir. Et les portes vont ouvrir. Le rituel veut qu'Ariane Nouchkine ouvre cette porte. Elle les accueille, la première.
Bonjour madame.
Merci beaucoup.
Bonjour madame. Merci beaucoup. Merci bien.
Bonjour messieurs, dames.
Oui.
Je voudrais savoir pourquoi vous venez au soleil.
Pour la qualité de ces spectacles.
Vous êtes des habitués.
Pas tellement, pas tellement, mais même de loin, on admire toujours ce qu'elle fait.
Moi, c'est la première fois. Honnêtement, j'avais vraiment envie de voir Nouchkine. Voilà.
Et cet accueil avec Ariane Nouchkine, la patronne du lieu, la meneuse de la troupe, ça fait quel effet ?
Enfin, on se demandait si c'était elle, on nous a confirmé, mais ça fait plaisir, quoi. D'être reçu tout simplement par elle, c'est une grande chance. Moi, j'avais entendu parler que c'était toute une troupe, enfin, voilà, et c'est ce qu'on voit dès le départ, quoi.
Bonjour, monsieur. Merci.
Ariane ?
Oui.
Moi, je suis assez admiratif de votre constance. Votre constance, entre autres, elle est d'être là, toujours à l'ouverture. Alors souvent, on vous parle de ce moment-là, mais il est très impressionnant.
Oui.
Parce que pour vous, il a beaucoup de sens.
Oui, parce que moi, je dois dire, je trouve ça miraculeux. Je continue à trouver cela miraculeux, d'ouvrir la porte et qu'il y ait des gens qui sont là avec leurs enfants le samedi et le dimanche ou sans leurs enfants le soir et qui manifestent le désir de venir chez nous, de voir notre spectacle, de choses extraordinaires.
Voilà, vous avez vécu vous aussi l'expérience à l'intérieur du Théâtre du Soleil avec les comédiens, avec les musiciens, avec Ariane Mnouchkine. Vous avez entendu les spectateurs dire « Oh, que c'est bon d'être reçu !»
Oui, je sais ça. C'est-à-dire, je sais que les gens qui viennent, ils aiment le fait que nous montrions que nous ne sommes pas juste des vendeurs. Voilà. On va pas au théâtre acheter un spectacle. Les gens qui viennent au théâtre, en général, et chez nous en particulier, ils viennent vivre un moment pour lequel il faut payer. Bon. Mais ils viennent passer un moment. Donc c'est normal que nous qui avons préparé ce moment pour eux et qui allons le vivre avec eux, c'est quand même normal qu'on les reçoive. C'est un moment, je dis toujours, c'est un moment érotique, mais oui, c'est un moment d'amour physique entre des gens et des acteurs. Il y a des visages, il y a de la chair. Et si c'est pas traduit d'une certaine façon dans l'accueil, il y a quelque chose qui manque. Moi, je pense que la culture devrait être subventionnée par 10 ministères. Par la justice, par la santé publique, par l'intérieur. Je pense que les livres, la peinture, la musique, c'est la meilleure prévention, puisque c'est, je vous dis, puisque c'est de la musculation d'humanité.
Nous sommes bien sur France Inter en compagnie d'Ariane Mnouchkine, metteuse en scène, membre et fondatrice du Théâtre du Soleil, qui se trouve, vous le savez, à la cartoucherie de Vincennes, où l'on joue Une chambre en Inde jusqu'à la fin avril. Deuxième heure en votre compagnie, Ariane Mnouchkine, tout va bien ?
Tout va très bien, tout va très bien.
On va recevoir une musicienne, Sonia Vider-Atherton, bonjour.
Bonjour.
Madame la violoncelliste. Bonjour Madame l'écrivaine, Tania de Montaigne.
Bonjour Vincent,
on
bonjour.
Vous retrouve tout de suite, juste après Franz Ferdinand, Lazy Boy.
Get up, get up, never. I'm gonna get up, get up, never.
Quand on fait du théâtre, on ne peut pas faire autre chose. Je pense que c'est un art d'abord très préoccupant comme directeur, et puis c'est un art jaloux. Si vous faites du cinéma parallèlement au théâtre, il y a un ou deux qui en prend un bon coup. J'aime bien la phrase de Rilke, quand on fait quelque chose, il ne faut pas faire autre chose que cette chose-là. Enfin, je m'exprime très mal, vous voyez. Eh bien, quand on dirige un théâtre populaire, quand l'on essaie de faire rentrer la culture populaire par le théâtre dans les classes françaises, il ne faut pas vouloir faire du cinéma. Il ne faut pas vouloir créer une grande société internationale du théâtre. Il faut être à son établi le matin, l'après-midi et le soir.
J'aime bien ces propos de Jean Vilar et Yann Mouchkine qui sont assez définitifs, assez entiers. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est s'occuper et de son théâtre et du théâtre. Il est radical comme vous l'êtes aussi.
Oui, non, mais il a tout dit là. Hein. Il faut être le matin à son établi. Il n'y a qu'une chose. Et parfois, je dois dire, comme moi je sais que je suis comme ça, un peu monomaniaque, hein, je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois, et donc parfois je me dis, oh, c'est vraiment une faiblesse, et Dieu merci, quand je l'entends, je me dis, mais non, c'est pas une faiblesse, c'est une force.
Il fait partie des personnalités essentielles à votre vie.
Et c'est un maître de la morale, de l'éthique, et donc de la politique culturelle. Et il est incontournable, il a ouvert, lui et quelques autres, mais lui surtout par ses écrits, il a ouvert la route. Et par rapport à l'éclectisme qu'on croit maintenant si important, hein, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse plein de choses pour exister face aux médias, etc. C'est très bien qu'il y ait Jean Vilar qui nous dise « Non, il n'y a qu'une chose, tu restes à ton établi. » Tu cultives ton théâtre, voilà.
Un extrait de Fodder on My Wings, hommage à Nina Simone sur votre album Sonia Videra-Terton, Little Girl Blue, sorti en 2014. Avec votre violoncelle, là, qu'est-ce que vous dites et que nous dit à travers vous et à travers lui Nina Simone?
Ah, c'est comme si je lui écrivais, comme si je lui parlais, comme si je raisonnais de ce qu'elle nous a amené. Et la première chose que je dirais, c'est qu'elle a inventé une langue qui s'est formée en butant contre tous les interdits les uns après les autres, tous les empêchements, toutes les violences, qui chaque fois la projetaient ailleurs. Mais elle, justement, elle a gardé cette ligne. Mais je dirais une ligne de tension entre ce qu'elle faisait et ce qu'elle rêvait de faire et qu'elle pensait ne pas faire, mais qu'en fait elle faisait. C'est-à-dire on lui interdisait le monde de la musique classique, on lui interdisait la vision d'elle-même comme une pianiste concertiste classique. Et du coup, elle a amené tout ça dans son univers à elle, qu'elle a totalement nourri de tout ça. C'est-à-dire une connaissance de la musique classique, du piano comme personne, des harmonies, du rythme, du répertoire de Bach, Rachmaninoff, Brahms, Couperin. De la musique baroque, du mélange entre le baroque et le contemporain. Tout ça, elle a amené, qu'elle a mélangé à sa voix, aux thèmes anciens, à la musique religieuse. Et de tout ça, elle a fait une chose unique et tellement comme un chemin, comme un fil qui se tend.
Ariane Mouchkine ?
Non, Sonia, vous avez dit on lui interdisait, vous n'avez pas dit pourquoi ?
Parce qu'elle était noire.
Voilà.
Oui, ça semble... Parce qu'elle était noire, probablement parce qu'elle était femme, mais d'abord parce qu'elle était noire. Mais c'était compliqué parce qu'en même temps, ce sont les blancs de la petite ville où elle habitait qui se sont regroupés pour soutenir ses études financièrement. Mais quand ses parents sont venus pour l'écouter, on leur a dit vous n'avez pas le droit d'être assis là. Donc il y avait toujours cette chose, cette tension.
Tania de Montaigne, ça vous parle, cette interprétation, cette réinterprétation de la musique de Nina Simone par Sonia Videra-Terton?
Alors là, il y a plusieurs choses qui me parlent, parce qu'en fait, le violoncelle, déjà, ça me parle.
Ah oui, on dit que c'est une vraiment... voix, que c'est quasiment la voix humaine.
Oui, c'est une voix. Et donc je trouve que déjà là il y a quelque chose de puissant. Et puis c'est vrai que de restituer ce qu'est Nina Simone, c'est-à-dire vraiment quelqu'un profondément nourri de musique classique et qui est obligé par la force des événements de continuer à être une artiste différemment, ça je trouve que c'est restitué aussi. Donc je trouve qu'il y a vraiment à la fois elle y est et puis en même temps il y a une autre artiste qui dialogue avec, donc c'est magnifique.
Hein, ouais. Ariane Mnouchkine, deux femmes avec nous dans cette deuxième heure, avec Sonia Vidertertone.
Trois avec Nina Simone.
Trois avec Nina Simone qui était avec nous à l'instant.
Si vous m'autorisez, j'étais en écoutant Sonia et le violoncelle, qui est une voix, comme tu dis, Tania. Je repensais à ce moment que j'avais vécu grâce à vous, Vincent, juste après les attentats, et où Emmanuel Zwirk avait joué.
Oui, et c'était sur France Musique, voilà. Dans la matinale, hein, voilà, juste après les attentats.
Elle avait joué, donc, et je regardais donc Emmanuel, qui est aussi une très belle femme, et qui était là, toute seule, avec son piano, et qui jouait. Et je me disais, ben voilà, elle est en train de faire ce que eux veulent interdire, hein. Une femme, la musique. Et là, de nouveau, oui. Sonia nous parle d'une femme noire, la musique interdite, et toutes ces interdits, tous ces murs que tant de gens ont passé leur vie, ont donné leur vie pour abattre, hein, et qui, comme ça, insidieusement ou pas si insidieusement que ça d'ailleurs, sont en train de remonter et que nous laissons, par nos inhibitions, nos culpabilisations, je ne sais pas quoi, nous laissons remonter. Nous ne devons pas laisser remonter des murs entre nous. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes différents par un grain de peau, c'est-à-dire génétiquement rien. Donc les murs qu'on continue à monter en 2018, c'est intolérable, et qu'on argumente pour ces murs, qu'on les comprenne, qu'on ait de l'indulgence pour ces murs, c'est criminel.
Mais vous dites pas autre chose dans votre livre chez Grasset, L'assignation, les Noirs n'existent pas, Tania de Montaigne. Vous dites avec pas mal d'humour d'ailleurs, une sorte de cri, mais de cri avec du recul. Un cri espiègle. Vous êtes assez espiègle, Tania de Montaigne. Vous dites que arrêtez de nous stigmatiser, nous, les Noirs, et déjà, dites pas vous, les Noirs.
Oui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'ailleurs la majuscule, en fait. Hein. C'est les Noirs n'existent pas, et pas les Noirs, parce que ça, on est bien d'accord qu'il y a plein de couleurs différentes dans ce bas monde et que c'est super. Mais en revanche, dès l'instant où on dit, et pour moi, c'est les Noirs, c'est les Juifs, c'est les musulmans, c'est les Blancs. Jaunes, c'est les Blancs, c'est les femmes. C'est-à-dire, dès l'instant où, en fait, on met une majuscule, on présuppose que les gens agissent par nature et pas par culture. Et donc, je me suis dit, peut-être que il faut réfléchir, parce qu'en fait, de cette majuscule, de cette assignation, que chacun fait sien, ça nous traverse tous, hein. Donc il n'y a pas pour moi de gens qui seraient très vertueux parce qu'ils seraient très très victimes, et puis des gens qui seraient très diaboliques parce qu'ils seraient extérieurs à tout ça. C'est une circulation, et dans cette circulation, en fait, nous parlons tous une langue qui est définie. Alors, si je dis les Juifs, c'est bien, parce que je dis la langue des nazis avec grande joie, et si je me revendique de ça en disant, puisque vous me dites que je suis le noir, le juif, et que je me recroqueville dans un groupe où je crois reconnaître que des noirs et que des juifs, et que je me dis on est entre nous, je fais ça aussi, c'est-à-dire je parle la langue de l'esclavagiste, la langue du nazi, je la reproduis à l'infini. Donc je me dis, peut-être que si on détache ça, c'est-à-dire si on retire la majuscule et que on accepte de prendre ce qui est, c'est-à-dire c'est pas un nom, c'est un adjectif. Si on accepte l'adjectif, alors on accepte de faire un saut dans ce qui, à mon avis, va être beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire dans la relation, en fait.
Ne pas stigmatiser systématiquement, Ariane Mnouchkine, c'est peut-être ce qui vous a plu, entre autres, dans ce livre de Tania de Montaigne.
Tout m'a plu dans ce livre.
Déjà l'écriture, il est très bien écrit.
Voilà, j'ai beaucoup aimé son originalité, son courage, et surtout, j'adorais la façon dont vous parlez, par exemple, de l'appropriation culturelle. Voilà, hein. Ça m'a fait rire, parce que c'est un... Vous savez, le fait que maintenant, on n'aurait pas le droit, nous qui sommes des Occidentaux coupables par essence, nous n'aurions pas le droit de travailler sur une musique indienne, nous n'aurions pas le droit de faire jouer un Indien par un Occidental, ce qui fait qu'un Indien pourra jamais jouer Hamlet non plus. Enfin, c'est absurde. Il y a quelque chose qui est en train de se produire là, dans ce qu'il s'appelle l'appropriation culturelle. Et je trouve que Tania décrit ça avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de simplicité et en piquant exactement là où elle en montre l'absurdité.
Vous racontez beaucoup de choses sur les souffrances que vous avez pu endurer, même si vous savez tourner ça, encore une fois, d'une manière espiègle, pour reprendre l'adjectif d'Ariane Nouchkine. Vous racontez par exemple que quand vous étiez il n'y a pas si longtemps que ça à Canal+, eh bien les vigiles, à chaque fois, s'acharnaient un peu sur vous à l'entrée.
Bah, c'était même pas de l'acharnement, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'idée de... Parce que c'est, là, je parle d'un temps qui est... Un an avant Jamel et Omar Sy et ces garçons qui sont arrivés après. Et donc moi, quand je suis arrivée, en fait, oui, il y avait un problème, c'est-à-dire une femme noire, avec la majuscule, dans le hall, bah, c'est forcément une femme de ménage. Donc il y a un problème d'horaire, là, on n'est pas au bon endroit au bon moment. Et donc me voilà partie à attendre. Et puis en plus, tout était le malentendu était partout. C'est-à-dire qu'ils me demandent pourquoi je suis venue. Alors moi, je dis, je suis et cherchais le mot. Donc je dis, bah animatrice. Et là, ah bon, animatrice. Mais donc il y a toute une, il y a du talkie. On se parle, on se reparle. Et en fait, le monsieur, c'était tellement invraisemblable que je puisse être animatrice dans une émission de télévision que il cherchait s'il y avait pas un comité d'entreprise qui aurait eu lieu dans la journée où il y aurait une vente et il y aurait une animatrice des ventes. Et là, ça reprenait, là, ils pouvaient voir une noire qui fait de la vente, ça va. Et donc, en fait, ça m'a pris la matinée avant d'arriver à arriver jusqu'à mon bureau. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de montrer à quel point, justement, une fois qu'on a mis quelqu'un en majuscule, il est impossible d'envisager toutes les choses qui sont pas prévues par la majuscule. C'est ça qui est intéressant. C'est que, on parle de Nina Simone, mais Nina Simone, c'est effectivement une petite fille qui apprend à jouer du piano, qui apprend toutes les bases du piano classique, mais il est impossible qu'elle passe le concours de l'école parce que ça n'est pas prévu, parce que dans la liste de ce que font les Noirs en majuscule, il n'y a pas l'école classique. Ça n'est pas ce que font les Noirs. Mais en même temps, aujourd'hui, quand je vois, ça m'arrive régulièrement que des gens me disent qu'ils adorent la musique noire avec la majuscule, donc l'ensemble de ce que font les Noirs, hein, globalement, j'ai l'impression, on voit bien que on est encore traversé, c'est-à-dire c'est une traversée qui a pris des siècles, et qui continue à irriguer ce que nous pensons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être noir pour croire que la musique noire existe. Hein. Et il n'y a pas besoin d'être blanc non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui nous est commun. De la même façon que on entend des trucs sur les femmes qui font des trucs extraordinaires ou nuls parce qu'elles sont des femmes. Et ça traverse tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un homme pour penser ce genre de choses. Donc c'est ça aussi, c'est que c'est du boulot parce qu'il va nous falloir sans arrêt admettre que nous sommes traversés par des pensées racistes comme tout le monde. Et parce qu'on se voit se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je suis en train de penser? Ça, je crois que c'est le début de quelque chose qui va nous amener un petit peu plus loin que là où on est. Je crois que nous allons pouvoir enlever nos petites roulettes à nos vélos et rouler comme ça, juste par notre propre équilibre.
Côte à côte.
Le Grand Atelier. Vincent Josse. Sur France Inter. The amount of magnetism is perfect. She says she knows just how to cool down California for me. Text at 3 a.m. because her roommate's back in Texas. I copy like Roger. Climb some trees and get perspective. Mirror right next to a bed, motion perfected. All I can do is respect it. But why'd you wanna be around me in the first place? She said, baby, up and down since third grade. You were satisfied with first base. And I've been widely known to be providing earthquakes. You must not have heard. She likes the shark print with the zip up. High hats with the hiccups. Dark tints on a pickup. Pineapples and liquor. She moved with the machine. Played a game to change it. This is how it is to be. This is what I'm made with. This is love. We'll be right back.
Just a silhouette against the sunrise. She read my mind and poured some Earl Grey in a solo for me. Asked me if I wanna go to Mars and watch the world end. I think I might love her. And she got everything I need. Playing Jodeci at noon, might never leave a room. She likes the shark print with the zip up, hi-hats with the hiccups, dark tints on a pickup, pineapples and liquor. She knew with the machine, played a game of changing. This is how it is to be. This is what I'm made with. This is love.
Biscuit, le DJ rouennais de 18 ans, et oui, Mehdi Benjelloun, et on vous retrouve, Ariane Mouchkine, avec Tania de Montaigne, journaliste et écrivaine, et puis la musicienne violoncelliste Sonia Vider-Atherton. Je crois que vous aviez envie de parler de la culture à l'école. Vous avez envie qu'on impose la culture dans les programmes scolaires?
Ce que je vois, c'est que quand il y a de l'éducation artistique dans un établissement, que ce soit les options théâtre, que ce soit du dessin, de la musique, etc., cela change tout l'établissement. Et les profs vous le diront. Ça élève tout l'établissement, même les classes qui ne sont pas directement concernées par cette invasion, cette entrée, cette perméabilisation de l'établissement à l'art. Voilà. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose qui doit progresser. Et il y a des profs et des organisations qui se battent pour que nos enfants, quand même, pratique à l'école des arts. Mais il n'y a pas assez, et surtout on peut sentir quand même que plein de gens ne seraient pas mécontents si on en enlevait pour laisser la place à d'autres matières préparant nos enfants mieux au monde de l'entreprise, comme on dit maintenant. Et moi je fais partie de celles et de ceux qui pensent que ce qui prépare le mieux nos enfants à la vie entre humains, donc aussi dans une entreprise, c'est la pratique des arts.
Sonia Vider-Atherton, est-ce qu'il vous arrive d'aller rencontrer des enfants, des lycéens, des collégiens, peut-être aussi des étudiants à l'université, et de parler avec eux de musique ou d'essayer de transmettre quelque chose au-delà d'un spectacle ou d'un concert?
Ben, ce que je fais, c'est dans le cadre des différentes odyssées que je transporte et où j'amène cette odyssée, donc qui est cette chose pour violon, comme une l'histoire d'une vie pour violoncelle et une bande son.
C'est un de vos spectacles, fait, hein, Odyssée.
Voilà, qui est faite avec des sons de mer, de vent, de chuchotement, de chants de cœur de femme, de tempête, d'éclairs. Enfin bon,
les sons que vous avez enregistrés vous-même souvent.
Voilà, qui est comme un orchestre de sons. Et avec ça, il y a la construction disons, d'une histoire qui commence à ce qu'il y a avant que naisse la première parole, donc le premier souffle, la première parole, le premier récit, la première colère. Et donc, je partage ça avec des gens différents. Il m'est arrivé, et pas une seule fois, de rencontrer effectivement des jeunes ou des enfants avec lesquels j'ai fait un travail, c'est-à-dire que je les ai invités à rentrer dans l'Odyssée et on s'est retrouvés régulièrement à travailler ces thèmes, donc que j'ai cités, que ce soit le rêve, la prière, le récit, la tempête.
Ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'ils font alors?
Alors, je leur propose de rentrer comme ils ont envie dans le projet. Que ce soit quelque chose qui justement ouvre leur imaginaire et amène à leur mémoire présente un chant, une histoire, un bruit. Alors, on va aller l'enregistrer. C'est une chose vraiment qui est multiple et qui n'a pas d'idée préconçue de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, heureusement, parce que chaque fois, il se passe des choses différentes que j'aurais jamais imaginées. Beaucoup sur la langue, sur le son de la langue,
beaucoup sur le besoin, et ça c'est assez bouleversant. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas la tempête, c'est pas la révolte, tout ça qui les attire, où ils disent on va aller là-dedans, c'est le repos. C'est la notion de prière dans le sens un arrêt du temps et d'avoir besoin d'écouter ce qu'ils ont en eux. Et comme je mélange tout ça avec avec le violoncelle, avec ce qu'on peut faire ensemble, avec comment ils vont l'enregistrer, donc ils voient déjà le résultat qu'ils vont travailler de ce qu'ils sont en train d'imaginer, et ben je me retrouve avec des trésors. L'imaginaire, on pourrait croire que l'imaginaire n'est pas quelque chose qui demande une grande exigence. C'est-à-dire que l'imaginaire doit être ouvert, doit marcher autrement. L'imaginaire, il laisse les trucs partir. Il ne les juge pas, parce que sinon, on laisse pas les choses sortir. Et puis, quand on choisit ce qui sort de ce moment de liberté, là, on dit, bah, ça, je vais le travailler. Ça, je le choisis. Ça, je le fais avec eux, c'est des moments magnifiques. Parce que, au début, c'est j'ai peur d'eux, je veux pas ça. Et puis, finalement, le filtre tombe. Ça commence à venir, à venir, à venir. Et là, ça se pose comme de la neige, comme ça. Et on choisit. Sans jugement. Et là, ça commence comme le sculpteur. On tape sur la pierre et on tape.
Ariane Nouchkine, une réaction ?
Ah ben, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, parce que c'est exactement ça. L'imagination, d'abord, c'est un muscle qu'il faut entraîner. Et ensuite, l'imagination juste comme ça, dilatée, ça n'est rien. Il faut qu'à un moment donné, ça cherche une forme. Parce que vous parlez, au fond, de contenu et de forme. Et l'art, c'est ça. C'est un contenu et une forme. Et bien sûr qu'il faut de l'exigence. Et non seulement ça, mais moi, chaque fois que je travaille avec des jeunes, ou tout ça, ils découvrent l'exigence. Et ça les aide. Il ne faut pas croire que les jeunes ne veulent pas d'exigence. Ils la veulent bien placer. Voilà. Mais quand ils comprennent que cette exigence va les aider à faire mieux, à faire plus beau, à faire plus jouissif, ça marche absolument. Oh, vous savez, il faut que vous veniez avec nous un jour à faire une école nomade mixte. On fait une école nomade.
Je viens.
Théâtrale et vous avec l'Odyssée musicale.
Alors que pourrait faire dans Tania de Montaigne avec vous là, à cette occasion.
Elle chante très bien, Tania. Moi,
prouvez-le.
J'ai découvert ça sur.
Oh, le challenge. Non, mais en fait, sur cette question-là, en fait, moi, je vais vous raconter une petite chose que ne sait pas Ariane, puisqu'on ne se connaît pas, en fait. C'est vraiment le livre qui nous a réunis. C'est qu'en fait, donc, moi, j'ai grandi dans une cité, et que donc,
j'étais où?
J'étais à Draveil, dans l'Essonne, côté de Corbeil, Grigny. Et donc, j'allais à l'école jusqu'au bout. Moi, je partais pas en vacances avant. Et dans le jusqu'au bout, il y avait un truc formidable, c'est qu'à la fin, on n'était pas nombreux et que donc les professeurs faisaient quelque chose pour nous qu'ils ne faisaient pas dans le reste de l'année et on voyait des films. Et moi, en fait, chez moi, on n'allait pas au cinéma, pas au théâtre. Il y avait les livres, mais voilà, les films, c'était pas mon univers. Et donc, dans les films de la fin de l'année, m'est arrivé Molière.
Monsieur Molière.
Ariane Nouchkine.
Oui.
On me dit beaucoup de mal de votre pièce, monsieur. Je supplie votre majesté de s'éclairer elle-même sur cette matière. Car il est très assuré, sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire de comédie si les Tartuffes ont l'avantage. Qu'ils prendront droit par là de me persécuter plus que jamais et voudront trouver à redire aux choses les plus innocentes qui pourront sortir de ma plume.
Et c'est ça, en fait, je pense à ça par rapport à ce que vous dites, Sonia, parce que en fait, c'est vraiment m'est arrivé, et c'est toujours comme ça. C'est pour ça que c'est formidable, l'art. Parce que c'est pas prévu au programme, il n'y a pas de programme, et on est là, on est dans une salle de classe qu'on a toujours connue toute l'année comme étant le lieu de la salle de classe, et Molière surgit avec une intention, une vision très singulière.
Une forme.
Et elle vient percuter, d'ailleurs, pour nous qui n'allions au théâtre qu'avec l'école, voir des comédiens en souffrance jouer des trucs sans intention. Molière, c'était, bon, le truc chiant dans le format petit comme ça. D'un coup, c'est pas ça. Et ça, c'est la force de l'art.
Ariane Nouchkine, voilà qui est revigorant.
Ah mais oui, j'avoue que c'est ce que j'espérais de cette émission, qu'elle soit revigorante.
C'est un bel adjectif, hein.
Oui, bien sûr.
On pourrait écouter à nouveau Sonia Vider-Atherton avec quelqu'un qui vient de disparaître. On a beaucoup évoqué son parcours et sa mémoire, c'est Jacques Higelin. Vous le connaissiez bien, vous avez enregistré avec lui. Vous êtes allé à ses obsèques au Cirque d'Hiver à Paris, jouer une partita de Bach pour lui. Quelle était votre relation à Jacques Higelin, Sonia Vider-Atherton?
Une histoire comme il sait les créer, c'est-à-dire qu'il avait aimé une photo qu'il avait vue, je sais pas où, de moi, et du coup il est venu au théâtre de l'atelier où je jouais. Puis après, on s'est rencontrés par hasard dans un café. On dit on va faire ci, et puis le temps passe et je suis allée l'écouter. Et puis voilà. Et puis un jour, on s'est retrouvés ensemble pour cette chanson dont il rêvait, avec le thème qui était déjà dans sa tête, le moi qui commençait à chercher et tourner autour de cette phrase. Donc elle est née. Et puis ensuite, il y a eu ce moment à la Philharmonie où on a fait un duo entre ses poèmes qu'il disait et moi qui jouais. Et donc on a passé beaucoup de temps à travailler et vraiment à se laisser dériver dans des univers musicaux et très différents. Et là, j'ai vraiment vu quelqu'un qui aimait ça, qui aimait perdre pied, qui aimait aimer.
Château de sable bâti par trois enfants aux cheveux d'or s'endort un conteur de fables charmé par la danse d'une aurore boréale. Rêve, rêve, bâtisseur de cathédrale, rêve de lumière, de poussière et de tourbillon d'étoiles filantes. En ce beau château de sable bâti par trois enfants aux cheveux d'or arrivent en bel équipage la divine et sauvage magicienne, celle qui d'un seul coup d'archet, d'une caresse du bout des doigts sur le corps hanté de son violoncelle peut envoûter le cœur et l'âme. Sable bâti par trois enfants aux cheveux d'or, l'enchanteur et la magicienne, sable, le champagne à la gloire de l'éphémère.
La voix de Jacques Higelin mêlée au violoncelle de Sonia Vider-Atherton, c'est un souvenir émouvant, ça, non ?
Très, très.
Tania de Montaigne, en ce moment, est-ce que vous aussi, vous faites des ateliers ? Est-ce que vous aussi, vous avez accès au public comme Ariane Mnouchkine et également Sonia Vider-Atherton ?
Oui, en fait, moi, c'était ça le point de départ, en fait. Comme j'ai grandi dans une cité, mais que je suis pas allée à l'école de la cité pour des raisons administratives bêtes, je me suis rendu compte que aucune de mes amies, aucun des amis avec qui je grandissais n'allait plus loin que le BEP. mal orientée, et que moi, j'étais dans une classe, alors j'étais la seule noire, la seule avec une famille comme la mienne, mais j'étais aussi dans une classe allemand première langue et tout ça, et donc moi, j'avais tous les possibles dans ma tête, rien n'était interdit. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse des études autour de cette question-là, et il faut que je trouve comment est-ce qu'on peut réparer ça et par où on va passer. Donc c'est ça mon sujet depuis toujours, et d'essayer de trouver des ateliers, des formes qui permettent justement de remettre les parents, les enfants dans la dynamique de l'école comme s'ils en étaient sujets et pas objets. Et en fait, il y a 3 ans, j'ai écrit un livre dans une collection qui est géniale qui s'appelle Nos héroïnes, et l'idée c'est de demander à une femme de parler d'une autre femme qui a fait l'histoire mais que l'histoire n'a pas retenu. Et moi, j'ai choisi de parler de Claudette Colvin, qui est une petite jeune fille extraordinaire de 15 ans, pas spectaculaire, si ce n'est qu'en fait, elle fait un geste qui lui ressemble, c'est-à-dire qu'elle refuse, on est en Alabama en 55, elle refuse de laisser son siège à un passager blanc, en silence, comme elle est, et elle va maintenir ça, donc c'est la première à avoir attaqué la ville, à avoir plaidé non coupable. Et
avant Rosa Parks.
Avant Rosa Parks, c'est Rosa Parks qui collecte l'argent pour payer son avocat, et dans cette ville, il y a tout un tas de femmes déchaînées qui vont se mobiliser autour de Claudette Colvin, puis quand elle sera lâchée par les hommes, autour de Rosa Parks. Et donc j'ai écrit ce livre-là, et qui a eu une trajectoire insensée, parce que ça fait 3 ans qu'il est sorti, qu'il a eu le prix Simone Veil, et que depuis, il m'a permis de faire plein d'ateliers, de réflexions, de travail avec des enfants qui prennent des passages, qui se les attribuent. Et comme c'est autour de la question justement de la couleur, et puis aussi du genre, plein de choses se sont élaborées. Et puis un jour, un metteur en scène m'a appelé en disant « Mais moi, je veux le mettre sur scène. » Et donc voilà, donc l'année prochaine, on sera au rond-point. Et entre-temps, à Paris. Et puis entre-temps, on se balade un peu partout avec ce texte. Donc là, je découvre, ça c'est nouveau pour moi, je suis sur scène seule à essayer de faire aimer Claudette Colvin comme je l'aime.
Ben voilà quelqu'un de bien occupé qui me semble quelqu'un d'heureux, Tania de Montaigne. Les Noirs n'existent pas, l'assignation parue chez Grasset. Sonia Vidar-Atherton, vous partez pour la Californie, me dit-on?
Oui.
Qu'est-ce que vous allez faire là-bas?
Je vais présenter voyager avec Chantal Akerman, ou plutôt son premier film qui s'appelle Saute ma ville.
La cinéaste,
avec
oui.
Lequel je dialogue avec des musiques qui l'accompagnent, qui l'interrompent, qui la précèdent, qui la serrent dans ses bras, qui la... Enfin, c'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est, il y a des musiques de Bartok, de Prokofiev, de Janáček. On joue avec les silences et oui, c'est vraiment un dialogue.
Merci d'être venues toutes les deux dans le grand atelier d'Ariane Mnouchkine.
Merci Ariane.
Merci beaucoup, je suis très contente.
Merci.
Ariane Mnouchkine, dans vos spectacles, vous avez traité de la question des réfugiés dans le dernier Caravansérail, la situation des migrants sans papiers qui sillonnent le 21e siècle. Elsa Denac a eu envie de suivre le travail d'une association à Paris, alors que le gouvernement prépare un projet de loi asile-immigration. Des associations se mobilisent en proposant des aides pratiques juridiques, des cours de français, et tous les mercredis de 17h à 20h, un atelier théâtre réfugié existe. Il est ouvert à tous. C'est Jessica Lempereur, actrice et metteuse en scène, qui l'a lancé. L'atelier est organisé par le BAM, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Il a lieu à la Maison des pratiques artistiques amateurs qui se trouve au HAL, à Paris, sous la nouvelle canopée. L'atelier a commencé il y a un mois. Les langues commencent à se délier, si j'ose dire. Écoutez.
Je m'appelle Ferdos, je viens du Bangladesh.
Abdurrahim.
Bonjour, je m'appelle Kondé, je viens de Guinée-Conakry.
Je m'appelle Baro Béchir, je viens de la Mauritanie.
Jessica.
Elsa.
Ici, on fait le théâtre.
Vous êtes prêts? C'est parti.
C'est un atelier qui a commencé par le biais d'anciens élèves du conservatoire, qui s'étaient mis en relation avec le BAM pour proposer des cours de théâtre. On commençait il y a à peu près un mois. L'idée, c'est de proposer une plateforme pour que les gens puissent s'exprimer, puissent voyager aussi, un peu s'échapper du quotidien. Il y a quelques personnes qui ne vont pas forcément avoir le droit d'exercer une activité encore, donc les journées sont longues, ou des fois, qui ont vécu des choses assez difficiles, et ils ont besoin d'un espace où rigoler, où s'émerveiller, où explorer des nouvelles choses.
Ici, c'est des respirations.
Exactement, le théâtre, ça veut dire c'est respiration et un peu rigoler, d'oublier la situation.
Pour moi, le théâtre, ça m'est présenté comme une liberté dans ma vie.
parce que ça me permet de rencontrer les gens. Moi, personnellement, ça me donne beaucoup d'expérience pour vivre en France. Et le théâtre, ça donne nous le goût aussi. J'ai découvert beaucoup de choses sur moi, sur le pays, comment on va vivre dans le pays aussi.
Go!
J'ai arrivé ici le 20 mars 2016. J'ai commencé à faire théâtre ici parce que en rentrant en France en 2016, j'étais dehors, j'ai dormi dehors. Il y avait une dame qui m'a donné le logement. Elle s'appelle Ophélie. Elle fait le théâtre aussi. Son solidarité, son confiance. Si je peux faire les mêmes choses, si je peux avoir les mêmes solidarités et les mêmes patience, je vais essayer. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai fait ça. J'ai fait théâtre.
Moi, ça fait un moment que je fais du théâtre. J'ai commencé en tant que comédienne et metteur en scène. Ensuite, je suis allée au Brésil pour me former sur une méthodologie qui s'appelle le théâtre de l'opprimé. Donc, le théâtre pour l'accès aux droits, pour l'accès à tout un espace de liberté qui n'était pas donné aux populations avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai bossé dans des favelas, dans des hôpitaux psychiatriques. C'est très, très large.
Do you know the way?
Arrivé en France, je ne savais pas parler français. Pas du tout. Théâtre, ça te donne le goût de parler. Même si tu n'as pas envie de parler, bon, les gens parlent. Vraiment, tu as envie de parler aussi. Comment et qu'est-ce qu'ils disent?
Ça, c'est la porte qu'elle a prise.
Beaucoup au tout début qui comprennent très bien, mais qui ont beaucoup de mal à s'exprimer parce que le stress, la pression, le fait d'être écouté et le fait de passer par le théâtre, ça désacralise un peu tout ça. On est en train de s'amuser et on oublie qu'on est en train de parler en fait. Et on se rend pas forcément compte et ça sort tout seul. Au début, je leur pose des questions, je leur demande leur avis, et au début, ils hésitent un peu. Et puis, de plus en plus, les langues se délient, et tout le monde a une opinion, a une pensée critique, et a envie de se faire entendre et apporter leur petite pierre.
Vous faites quoi dans ces ateliers?
On apprend beaucoup de choses, surtout, bon, on fait des mouvements avec des gestes, tout ça, et on improvise. Bon, on n'a pas encore commencé à jouer des textes, mais parfois on fait des scènes, comme par exemple, on joue des rôles, quelqu'un qui a subi une injustice, tout ça. On raconte une histoire qu'une personne a vécue et elle fait jouer ça. Ouais. On peut jouer des scènes qu'on a subi. Par exemple, si on a subi une injustice quelque part, on fait essayer de monter cette scène et faire participer à tout le monde. Ouais.
On espère pouvoir faire une pièce pour essayer de montrer d'une manière un peu plus vraie qu'est-ce que c'est qu'être un réfugié ou un migrant. Parce qu'au final, on a très peu de contact entre la partie de la population qui rejette les migrants et eux. Et c'est ça qu'on voudrait essayer de faire, c'est de créer un petit peu de lien et en apprenant à se connaître, en général, les choses se passent un petit peu mieux.
Ça m'a fait plaisir de faire une pièce de théâtre pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait.
Et tu voudrais dire quoi comme texte?
Je veux vraiment parler par rapport à la solidarité, le respect de l'autre gens. Et le patient. Si tu patientes, qu'est-ce que tu cherches? Tu vas avoir un jour.
Et toi alors, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu rêves?
Moi, mon rêve, dans mon pays, c'était l'éducation. Et aujourd'hui, je suis à l'école, je suis trop content pour ça.
Même si on est fatigué, même s'il pleut, même s'il fait moche, allez voir ce genre de pièces, parce qu'on peut être agréablement surpris que c'est du bon théâtre aussi, que c'est pas seulement du théâtre communautaire. Allez voir et rencontrez-vous, et rencontrez-nous, parce que je pense que la tolérance passe par la compréhension, et c'est ça qu'on essaie de faire.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Voilà, c'était le reportage d'Elsa Denac, l'atelier théâtre réfugié BAM, avec Jessica Lempereur, que vous venez d'entendre en même temps que nous, Ariane Mouchkine, avec des réfugiés d'ici et ailleurs. Quand je suis venu ce fameux samedi partager un long moment avec vos comédiens et avec vous-même, Ariane Mouchkine, au soleil, j'ai rencontré un Afghan dans mes souvenirs, j'ai rencontré une Tibétaine, j'ai rencontré un Hongrois. Quel est le plaisir de travailler avec eux? Qu'est-ce que vous apprenez et pourquoi avez-vous besoin de cette mixité là-bas?
Est-ce que je peux d'abord dire quelque chose sur ce que je viens d'entendre?
Avec plaisir.
C'est-à-dire que quand cette jeune femme dit il n'y a pas de contact entre les migrants et une partie de la population qui les rejette. Et c'est vrai que nous sentons bien qu'il y a une partie de la population française qui, je ne sais pas si celle rejette, mais en tout cas, visiblement, elle n'est pas prête à accueillir. Et elle a peur, au fond. Et je voulais dire que plus les principes, plus la voûte commune sera affirmée, moins la population concernée aura à se faire de soucis pour les principes inviolables de la République, plus elle sera prête à l'hospitalité.
La voûte commune, on le rappelle, c'est la laïcité,
entre autres,
la séparation des Églises et de l'État.
Voilà, et certains principes, l'égalité des femmes et des hommes, etc. Certains principes qui, chez nous, ne sont pas d'ailleurs encore acquis, mais en tout cas sont écrits. Même si l'égalité des femmes et des hommes n'est pas encore acquise, mais elle est dans la loi. Donc, plus ce que je vais continuer à appeler la voûte commune sera solide, moins nous aurons de soucis à nous faire pour les valeurs, on appelle ça les valeurs, mais les principes de la démocratie, de la République. Certains principes qui, chez nous, ne sont pas d'ailleurs encore acquis, mais en tout cas sont écrits. Même si l'égalité des femmes et des hommes n'est pas encore acquise, mais elle est dans la loi. Donc, plus ce que je vais continuer à appeler la voûte commune sera solide, moins nous aurons de soucis à nous faire pour les valeurs, on appelle ça les valeurs, mais les principes de la démocratie, de la République. Plus la maison symbolique sera gardée, moins certains d'entre nous auront l'impression qu'il faut des chiens de garde. Voilà. Et les portes seront d'autant plus ouvertes que les principes seront protégés. Mais nos principes doivent être défendus avec une radicalité totale. Et vous m'avez parlé aussi du plaisir que nous avions à travailler avec beaucoup d'êtres humains, femmes et hommes, venant d'ailleurs au soleil. Mais ça s'est passé depuis le début presque. Toutes les vagues, c'était les Sud, l'Amérique latine, c'était, vous voyez, toutes les vagues de réfugiés déjà, de gens qui fuyaient le Chili, l'Argentine, le Brésil, à cause des dictatures diverses et variées, puis l'Algérie, puis le Cambodge, certains de Russie, puis l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak. Ça donne effectivement un endroit où il y a des gens qui viennent qui ont 23 nationalités différentes. Mais la langue est le français. C'est un théâtre français qui est composé de gens du monde entier parce que la France reste française même quand elle est composée de gens du monde entier. Il y a quelque chose de la culture française, il y a quelque chose de la langue, de l'histoire de la France qui lui donne les forces. Même si en ce moment, ça ne se passe pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi, je suis certaine que la France, qui a eu les forces, eh bien, elle aura les forces d'intégration nécessaires si nous maintenons haut et fort ces principes.
Ariane Mnouchkine, on va pas tarder à se quitter, mais je voudrais qu'on évoque Patrice Chéreau, qui est mort en octobre 2013, parce qu'il revit le metteur en scène Patrice Chéreau grâce à un livre inspiré des archives qu'il avait laissé à l'IMEC, l'Institut de mémoire des écrits contemporains. Le livre s'intitule « Patrice Chéreau, journal de travail, année de jeunesse ». C'est le premier tome qui vient de sortir, ça va de 1963 à 1968. Alors le jeune Chéreau, je voudrais qu'on l'écoute, à ce moment-là, il avait 21 ans.
J'ai commencé à jouer parce qu'il y avait au lycée Louis-le-Grand, il y avait un groupe théâtral qui était déjà à l'époque très très actif et j'ai commencé à faire de la figuration. Enfin, ça a été mon premier contact avec le théâtre.
Vous étiez en quelle classe ?
J'étais en seconde.
Comment vous est venue l'idée de mettre en scène ?
C'est une chose qui m'a toujours tenté et ça s'est concrétisé, disons, au théâtre du lycée Louis-le-Grand. Au départ, j'ai été très influencé par Villard. Et finalement, je m'en suis détaché tout à fait. Et je crois que maintenant, la personne qui me fascine le plus, c'est Planchon.
Vous allez souvent au Théâtre de France ?
Je vais au Théâtre de France. Personnellement, je n'aime pas du tout ce que fait Barrault.
Qu'est-ce que vous lui reprochez ?
Je lui reproche de faire du travail bâclé. Peut-être est-ce prétentieux de ma part de dire ça. Ses mises en place, son travail d'acteur n'est pas satisfaisant. En plus, ses spectacles sont très rarement beaux à voir. Et c'est une chose qui compte beaucoup pour moi.
Voilà, Patrice Chéreau a 21 ans. Assez sûr de lui, Ariane Mnouchkine. Je vous interroge sur lui parce que d'abord, vous aviez l'un pour l'autre. Lui venait voir vos spectacles, vous, les siens, beaucoup de respect. Et aussi parce que vous avez signé la préface de ce livre qui paraît chez Actes Sud.
Oui, mais bon, il était comme ça. Il était comme ça, Patrice. Dans le livre que j'ai préfacé, il est très sévère avec des spectacles que moi j'ai faits. Mais Il est devenu beaucoup plus attentionné, tendre et compréhensif. Et donc, oui, donc ce livre, ses premières notes sont passionnantes parce qu'il est tout ça là-dedans. Hein, c'est-à-dire, il est à la fois un marxiste déchaîné, il est prétentieux comme on l'est à 20 ans, il est formidablement intelligent. Mais quand il dit que les spectacles de Barreau ne sont pas très beaux, c'est sévère. Mais c'est vrai que dans ses notes, on voit que peu à peu, marxisme peut-être, tout ça, oui, d'accord. Mais à un moment, je le dis dans la préface, il reconnaît une déesse et une seule, et c'est la beauté.
Oui, vous dites ça, oui, qu'il recherche la beauté.
Oui, c'est la beauté, et il va se dédier à la beauté jusqu'à la fin de ses jours. Et s'il y a vraiment quelque chose qu'on ne peut pas dire de ses spectacles, c'est qu'il n'était pas beau, parce qu'il était dans tous les sens du terme.
Merci d'avoir passé ces deux heures à France Inter avec nous dans ce grand atelier, Ariane Mnouchkine.
Merci infiniment.